OK, on est dans Jean, au chapitre 5. J'aimerais lire, on a lu tout le chapitre, on va venir sur des passages en particulier, mais là, pour s'introduire, j'aimerais lire les versets 19 à 21, où je veux souligner quelque chose en introduction. On est dans Jean 5, Jésus qui parle ici, hein, il dit, Jean 5, 19, « Jésus reprit donc la parole. » OK, c'est parti, excusez. Verset 19, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » On vient à toi, Seigneur, parce que c'est les paroles de vie. Tu es le Dieu vivant. Tout en toi n'est que vie, bonté et grâce. Et on te remercie, Seigneur, qu'on peut te connaître, te découvrir toujours davantage. Et merci que tu te fais connaître. Tu te fais connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu te fais connaître étant le vrai Dieu qui sauve, qui délivre. Et merci pour tes enfants, Seigneur, que pour nous, t'aimer, te connaître, c'est ça la vie. Et que ce temps dans ta parole, Seigneur, puisse produire du fruit à ta gloire, que tu fasses ton œuvre, Seigneur, comme juste toi es capable de le faire. On s'en remet entre tes mains, Seigneur. On est dépendant de toi. On veut grandir dans cette dépendance, dans cette conscience d'à quel point nous le sommes et comment c'est bon qu'il en soit ainsi, afin qu'on ne s'appuie pas sur notre sagesse, sur notre chair, mais sur toi, Seigneur. On vient à toi, Seigneur, dans cette disposition ce matin. Glorifie-toi, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Dans le chapitre, en fait, dans ce qu'on a lu, excusez, ça c'était encore ouvert, on va pas... OK, dans ce qu'on a lu, dans le chapitre 5, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent le mot « vie »,« vivant »,« vivront », puis tout ça, revient à plusieurs reprises. En fait, le mot « vie », juste en tant que tel, le mot « vie », dans le chapitre 5, on le voit à 5 reprises, et même, il y a 3 versets là-dedans, où est-ce qu'on a 2 fois dans le même verset, donc 6 occurrence dans 3 versets. Donc, il y a du concentré sur ce que Jésus-Christ ici communique concernant la vie. Et la vérité essentielle qui communique, c'est que Dieu le Père est la source de la vie et Jésus-Christ est celui qui la communique, qui la transmet. Et dans ce qu'on a lu ici, dans les versets 19 à 21, il y a des choses importantes. Il y a une théologie très importante au verset 19. Lorsque ça nous parle, puis en passant, quand Jésus dit « en vérité », ça veut dire « écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est de première importance ». Donc Jésus dit « en vérité », puis là, il nous exprime quelque chose que les théologiens appellent la kénosis, c'est-à-dire le dépouillement du Fils. Christ, étant pleinement Dieu et pleinement homme, a accepté dans son humiliation de se dépouiller de certains attributs divins. Il n'a jamais arrêté d'être Dieu. Mais il a mis de côté, étant dans son incarnation, il était dans une dépendance complète au Père. Et donc, ce n'est pas une hyperbole quand il dit, au verset 19, « Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Il a accepté que ce soit comme ça. Jésus, de par lui-même, même s'il était Dieu le Fils, dans son incarnation, ne pouvait rien faire par lui-même. Il était dans une dépendance totale au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça, c'est une très, très puissante vérité sur l'incarnation du Fils et ça nous montre qu'il était 100% dépendant de son Père par le Saint-Esprit. Et maintenant, dans le verset 20, ça dit « Car le Père aime le Fils, il y a cette union et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Et comme c'est la structure dans Jean, on voit des miracles et Jésus part de là pour enseigner des choses sur lui-même. Ici, il y a eu le miracle de l'homme à la piscine de Bethesda et là, Jésus enseigne sur lui-même. Dans le chapitre 6, c'est sur la multiplication des pains. Jésus enseigne encore sur lui-même. Les fameux « je suis » de Jean, il y en a 7 C'est sept miracles qui donnent sept déclarations « Je suis » avec sept explications, discours qui vont avec. Maintenant, dans le verset 20, on voit que l'ultime œuvre de Dieu, c'est de donner la vie elle-même. C'était pas juste de guérir un malade, et il a fait ça beaucoup. On le voit dans le chapitre 5, mais on le voit aussi à beaucoup d'autres endroits dans les évangiles. L'ultime œuvre du Fils, c'est de donner la vie à ceux qui sont morts. C'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la résurrection. Et c'est pour ça que ça nous dit au verset 21, hein? « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Ça, c'est l'œuvre ultime. Il donne la vie à ceux qui sont morts. Quand nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, mais Dieu nous a rendu la vie par Jésus-Christ, notre Seigneur. D'où le titre du message, « Dieu est la source de vie, point. » That's it, comme dirait Bounikou. That's it! Dieu est la source de vie. Alors, on va voir ça, vous allez voir, il y a du stock à déballer là-dedans. Et je veux qu'on pense les vérités centrales avant de aller plus loin dans ce que je veux vous partager dans le message. Je veux pas qu'on passe à côté de la simplicité puis la praticalité. Pas si ça se dit, là, mais là, je viens de le dire, donc probablement que je peux le dire. Le côté pratique de cette grande vérité que Christ est notre vie, que Dieu est la source de toute vie. On a un choix. Où tirons-nous la source de notre vie? Le choix est là. Où on tire la source? Option numéro un, Dieu est notre source de vie. Puis c'est abondant. Dieu est la source d'eau vive. Et Paul le dit dans Galates, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La source infinie de Christ qui vit en moi est là constamment. Et comment qu'on y a accès? Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Option numéro 2. Puis là, on va dire, ben là, une fois, avec l'option numéro 1, pourquoi qu'on irait à une autre option? Ben parce que on est là à comprendre des fois. Et notre chair, elle est tenace, mais option numéro 2, où on tire notre source de vie, si c'est pas de Dieu, c'est de nous-mêmes. Ou pour le dire autrement, de notre chair, qui est une source qui promet la vie, mais en fait, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la Bible est très claire, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et ça nous dit aussi dans Galates au chapitre 5, mais si vous, au chapitre 5, verset 15 à 18, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Marcher par l'esprit versus par la chair, c'est vraiment ce qui est contrasté dans Galates au chapitre 5. Et marcher selon la chair, c'est simplement de vivre une vie hors de la dépendance de Dieu. C'est pas tout le temps nécessairement crier après tout le monde puis être charnel dans le sens qu'on peut l'entendre, là, être le plus laid de nous-mêmes. On peut avoir un côté beau, mais la dépendance, la source, elle n'est pas à la source d'eau vive. On ne dépend pas de Dieu comme étant notre source de vie. Maintenant, si vous vous demandez comment cette indépendance peut-elle être vécue, ben la réponse, elle est diverse et multiple. Technique de la chair. La chair, hein, elle a toutes sortes de mécanismes de défense, de façons de répondre à ce qui arrive, chacun selon notre propre saveur. Et pourquoi? Pour essayer de combler nos besoins fondamentaux sans aller à Dieu, la source de vie. C'est ce qu'on appelle nos patterns, nos comportements charnels, nos mécanismes de défense, nos bonnes vieilles habitudes. Ben, bonnes vieilles, ils sont pas... C'est ce que nous, on appelle ça de même, mais ça vient de la chair. Et souvent, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la vie chrétienne en montagne russe. Où est-ce qu'on se sent près de Dieu quand on fait ce qu'on croit que Dieu s'attend de nous autres, puis on se sent loin de lui quand on néglige nos responsabilités? Quelqu'un a déjà été dans ce club ou encore a été en inscription. OK? Les inscriptions ne sont pas terminées, malheureusement. Ben, j'aimerais vous dire que cette façon de penser, elle est charnelle. Hey, on n'est pas habitué. Vous avez dit, on pense penser charnel, c'est que genre, je fais ce que je veux, dis-moi pas quoi faire. Non, savez-vous quoi? Que se sentir que Dieu est près de moi si je fais le bien, puis loin si je le fais pas, c'est charnel. Ça vient de la chair, ça vient pas de l'esprit. Ça peut paraître spécial, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'origine de ces pensées, c'est la chair, parce que tout comportement et pensée qui n'origine pas, qui ne dépend pas de Jésus qui vit en nous, ça vient de la chair. Le problème, c'est la source. Lorsque la source n'est pas Dieu, c'est la chair. C'est pour ça que la vie est changée, dont il est question dans Hébreux 12, 2, dont il est question dans Galates 2, 20. Cette vie signifie une vie de dépendance à Dieu comme étant notre source de vie, dépendre de ses ressources, tandis que la vie de la chair dépend de nos ressources. Et même si, et je dirais, surtout, on essaie de faire les choses pour Dieu, souvent le plus grand piège qu'un chrétien peut expérimenter, c'est de servir Dieu, mais avec les voies de la chair. Parce que voyons, ça paraît pas mauvais, je sers Dieu. Mais la source, la dépendance, aussi bizarre que ça puisse paraître, la source n'est pas Dieu. On sert Dieu sans Dieu. On va parler de ça. J'ai-tu attisé un peu la curiosité de quelques-uns? J'espère que je vous ai pas trop endormi. On va regarder comment on peut reconnaître la différence entre la chair et l'esprit dans notre vie. Marcher par la chair versus marcher par l'esprit. On va voir deux éléments fondamentaux à reconnaître pour reconnaître Dieu comme étant notre source de vie. D'abord, au verset 19, on peut voir la tromperie concernant Dieu, notre source de vie. Ici, Jésus, le Fils de Dieu, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'était pas une hyperbole, c'était pas pour paraître bien, c'était la vérité absolue. Il ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On l'a mentionné en introduction, Jésus vivait en dépendance totale au Père. Mais nous pensons qu'on peut vivre la vie chrétienne, qu'on a ce que ça prend pour vivre la vie chrétienne. C'est pas surprenant qu'autant de personnes soient dans la frustration et dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'on croit et on vit selon un mensonge. La vie chrétienne, c'est pas l'amélioration de ce que j'étais avant. La vie chrétienne, c'est la transformation. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus est la vie chrétienne. Fait que je peux pas vivre la vie chrétienne. J'ai pas en moi, dans ma chair, ce que ça prend. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, on a dans 1 Corinthiens, pardon, chapitre 6, versets 19 et 20. Deux versets qui sont puissants par rapport à ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous? Ici, ça parle aux enfants de Dieu. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pour glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit, je dois, c'est obligatoire, dépendre de Dieu par la foi. La source de dépendance doit être Dieu. Parce que les voies de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. La Bible est extrêmement claire là-dessus. Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et encore là, reprogrammons notre façon de penser ici. Vivre selon la chair, ça ne veut pas dire d'aller au bar, ça ne veut pas dire de crier après quelqu'un. Des fois, vivre selon la chair, ça peut être simplement qu'on fait une bonne chose, mais appuyé sur notre propre force, sur notre propre sagesse. C'est la source dont il est question ici. Ça peut bien paraître, mais c'est ça la tromperie. Vivre selon la chair, c'est pas tout le temps la grosse affaire laide. Des fois, ça l'est. Et malheureusement, ça peut l'être trop souvent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, encore là, elle est très claire, c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance. Quand je fais pour Dieu, où est ma confiance? Est-ce que dans ma capacité, dans ce que moi, je sais, je connais, j'ai appris, ou elle est en Dieu? La vie chrétienne, ce n'est pas de faire des choses pour plaire à Dieu. Je répète, la vie chrétienne, ce n'est pas de faire des choses pour plaire à Dieu, ou encore, ce n'est pas de donner ou de redonner mon moi à Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est de se soumettre, c'est de dépendre de Christ en moi.
Amen.
C'est ça, la vie chrétienne. Donc, on va, pour s'aider un peu à démêler la tromperie là, dont on parle ce matin, voici quelques mensonges pour démasquer la tromperie. Premier mensonge, il n'y a pas d'autre façon de vivre la vie chrétienne, c'est-à-dire que d'améliorer mon moi. Il n'y a pas d'autre façon que ce que je connais. Parce qu'en ce moment, on est en train de réapprendre la vie chrétienne. On est en train d'apprendre Christ pour prendre les paroles d'Éphésiens 4:20. On apprend Christ. Donc oui, il y a une autre façon, mais il y a une tromperie qui dit « Ben non, c'est ça la vie chrétienne, t'apprends ce que t'es supposé de faire, puis la mentalité du faire. » Okay? Comme s'il n'y avait pas d'autre façon. Beaucoup de chrétiens croient cela. Mais j'aimerais vous dire, cette façon de penser, elle est égocentrique, elle n'est pas christocentrique, parce que ça commence avec « je ». La vie chrétienne, c'est « je fais ci et je ne fais pas ça ». Ça, c'est la tromperie. Alors qu'une pensée christocentrique, la vie chrétienne, c'est « Christ m'amène à faire ci, Christ me protège de faire cela ». Puis, là où ça devient trompant, c'est que les gens qui sont dans cette tromperie-là veulent donner leur meilleur à Dieu. Ils veulent vraiment, là. Alors qu'écoutez bien, Dieu leur demande simplement de laisser Jésus se donner à eux. Pensez à ça, là. Est-ce que je veux donner mon meilleur à Dieu? Ou Dieu qui est là, qui m'offre, il dit, je veux, moi, te donner mon meilleur. Je veux te donner Jésus. C'est vraiment, c'est un ou l'autre. Et la source, c'est moi. Dieu, je veux te donner mon meilleur. Ou Dieu, il est dit, je te donne mon fils. Il est en toi. Il vit en toi. C'est quel qu'on veut. Voyez-vous la source? Voyez-vous comment que c'est trompeur? Il n'y a rien de mauvais à vouloir donner notre meilleur à Dieu. La pensée peut avoir une certaine noblesse, mais la tromperie, c'est la source. Je veux donner mon meilleur à Dieu. C'est qui ça? C'est tout moi. C'est égocentrique, ce n'est pas christocentrique. Laissez Dieu simplement nous donner Jésus. Il l'a déjà donné, nous l'avons pleinement, tout pleinement en lui. Et donc, il ne faut pas se leurrer, la justice propre va nous donner des fois un sens d'accomplissement. Hein? Ça va nourrir l'ego. Hein? J'ai fait ci pour Dieu. Pis, okay? Et souvent, ça va être ça qui va être la source de motivation. Ah, t'as-tu vu, Seigneur, tu m'as utilisé pour parler de toi, hein? Puis tout ça. Puis on peut trouver une motivation là-dedans, mais il y a un prédicateur là-dessus, monsieur Van Machin Chouette, comme dirait l'autre, Van Galdrin, qui dit « La chair marche d'habitude sur le carburant comme ça, là, l'auto-carburant, pendant à peu près 7 ans, après ça, se fatigue, puis il arrive de quoi, là, puis ça se met à pas bien aller. » Pourquoi? Parce que la source n'est pas la bonne. La source de motivation. Et j'aimerais vous dire, là, non seulement c'est égocentrique, mais c'est contre Jésus. Si je m'appuie sur ma sagesse, oh, ben, c'est pas grave, là, c'est mieux que rien. Non, c'est contre Jésus en moi. C'est pas la confiance en Jésus, c'est contre la confiance en Jésus en moi. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Puis, ça va donner des choses comme... Puis là, je n'irai pas dans la subtilité, mais d'habitude, on drape ça de plus de subtilité. Là. Ben, vouloir plus de succès. Vouloir plus de résultats. Plus d'approbation, d'acceptation des autres. Ça, c'est ce que notre chair veut. Et c'est pour ça qu'elle va être motivée d'aller chercher ça. Mais avec Dieu, des fois, quand que lui, on le laisse agir, ça se peut qu'on n'ait pas le succès qu'on aurait pensé, qu'on n'ait pas l'acceptation qu'on aurait pensé, puis les résultats qu'on aurait pensé. Mais on a ce que Dieu veut pour nous autres, puis c'est exactement ça dont on a besoin.
Amen.
N'est-ce pas que Jésus, il était sur terre, puis on dit, il n'a pas été le gros preacher à succès, puis méprisé, abandonné des hommes, mais ça n'a pas trop le pedigree du succès, n'est-ce pas? En tout cas, humainement, là. Pourtant, c'est le plus grand succès inégalé de tous les temps, là. La croix, l'œuvre du calvaire, la résurrection. Mais ce n'était pas les voies humaines. Il attendait là, de venir comme une espèce de héros là, qui allait les libérer de Rome ou sauter du toit du temple, les anges vont le rattraper puis tout le kit. C'est pas ça qui est arrivé. Et cette voie vers vouloir le succès, le résultat, tout ça, par nous-mêmes, ou selon ce que nous, on en juge, ben c'est la voie sûre et certaine vers l'insatisfaction, vers même la dépression, le découragement. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas ce qu'il n'initie pas. Si Dieu n'en est pas la source, c'est pas béni. La source est corrompue. Le fruit ne peut pas être bon. La chair n'est pas initiée par l'esprit. Aussi bonne peut être l'idée, si c'est pas l'idée de Dieu, est pas bonne. Donc, oui, il y a une autre façon de servir Dieu, et c'est pas l'origine en nous, mais en Christ qui est en nous. Deuxième façon de démasquer la tromperie ici concernant notre source, Dieu étant notre source de vie, la culpabilité comme motivation pour servir Dieu. Encore là, là, j'y vais, je ne suis pas subtil. D'habitude, on est plus subtil que ça. On n'est pas aussi clair et honnête. Mais c'est ce que beaucoup de chrétiens croient. Ils vivent dans la honte de ne pas faire assez pour Dieu ou quelque chose dans le genre. Faire mieux, faire plus, faire... OK? La culpabilité. Écoutez bien là-dessus, c'est très simple ce que j'ai à dire. Dieu ne désire pas de nous ce qu'on veut faire. Puis il est là, puis il nous regarde, hey, fais plus, là, t'as pas fait assez. Dieu nous veut nous, tout simplement. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Quand il nous a nous, ben là, il fait ce qu'il veut avec nous autres. C'est ça qui lui plaît, puis savez-vous quoi? Faites-vous-en pas, si Dieu nous a, si on se donne à lui simplement, il va faire toutes sortes de choses avec nous autres. Merveilleuses, extraordinaires, puis on va être satisfaits, puis on va être bénis, puis on va bénir les autres. Mais encore là, la question, c'est la source, c'est le départ, de où qu'on part. La relation avec Dieu est basée sur l'acceptation, pas sur la performance. Le problème avec cette tromperie que je viens de dire, la culpabilité pour motivation avec Dieu, c'est que ça part de la performance. Hein, j'ai pas fait assez, je devrais faire plus, puis j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Tout ça, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Alors que Dieu a une relation avec ses enfants basée sur l'acceptation. C'est ça la grâce. On est déjà pleinement, parfaitement accepté et on est appelé à vivre à la lumière de cette acceptation. Troisième tromperie qui peut nous amener des fois bien des ennuis. C'est un peu dans le sens de ce que je viens de dire. Ça va quelque chose comme suit. Nous pouvons acquérir l'acceptation de Dieu. Selon notre performance, là, okay? Selon ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et cette pensée, tu sais, quand je parlais, là, je ne me rappelle plus combien de messages, mais quand je parlais des deux arbres, on va en parler après-midi, des deux arbres, là, connaissance du bien et du mal versus l'arbre de vie, qui n'a un que c'est l'autosuffisance, que c'est la dépendance sur soi, puis l'autre, c'est la dépendance de Dieu. Bien, l'idée d'acquérir l'acceptation de Dieu, c'est une pensée qui vient de l'autosuffisance, que moi, je suis capable, avec mes moyens, d'être accepté par Dieu. Et ce n'est pas comprendre les faits concernant l'acceptation de Dieu. Est-ce que la Bible nous dit que, quand on est un enfant de Dieu, on a quelque chose à faire pour être accepté? Est-ce que, de la même manière aussi, est-ce qu'on a quelque chose à faire pour être sauvé, pour être accepté par le salut? Non, Dieu a déjà tout fait. On doit recevoir ce qu'il nous a déjà donné. Et l'idée, c'est vraiment notre compréhension de la grâce. Je veux dire, on est accepté par pure grâce. On ne peut rien y rajouter, on ne peut rien y enlever. Si Dieu nous accepte, on a juste à dire merci. Tout est là. Tout... Qu'est-ce qu'on peut rajouter à la grâce? Il nous dit, je t'accepte, tu es dans le bien-aimé, tu es parfaitement accepté. Amen. Et là, des fois, on a peur. Ouais, mais là, si on dit ça, on va faire n'importe quoi. Non, parce que quand on comprend la grâce, on n'a pas le goût de faire n'importe quoi. La grâce de Dieu nous enseigne. Puis la grâce de Dieu, c'est une personne, c'est pas juste un concept, c'est Jésus-Christ. Puis Christ nous enseigne, Tite nous parle de ça. On peut pas mériter l'acceptation de Dieu, on peut juste la recevoir simplement. Et ça, c'est vrai pour le salut, c'est vrai aussi pour la sanctification. Beaucoup ici ont compris qu'on peut pas recevoir la grâce de Dieu avec nos bonnes œuvres pour le salut. Est-ce qu'on comprend qu'on peut pas recevoir plus la grâce de Dieu dans notre marche avec lui? C'est-à-dire, on l'a déjà. Dieu, tu sais, ben là, dans mes mauvaises journées, Dieu n'est pas trop content de moi, puis il m'endure aujourd'hui. C'est pas vrai, ça. Dieu, il m'accepte déjà parfaitement. Est-ce que Dieu est attristé? La Bible dit que le Saint-Esprit peut être attristé. Évidemment, Dieu ne se réjouit pas du péché et de la dureté de notre cœur. Mais ça ne change pas son acceptation de nous en Jésus-Christ. Comprenez-vous? C'est pas qu'on prend le péché à des gens, puis il n'y a rien là, puis Dieu dit, ah, ben oui, maintenant que tu es en Jésus-Christ, là, tu fais n'importe quoi, puis... Non, mais... C'est vraiment reconsidérer les choses à la lumière de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et ce n'est que par la grâce de Dieu que quelqu'un peut passer de l'autosuffisance à une position de repos dans la suffisance de Christ. Lorsqu'on arrive là, vraiment, on commence à voir c'est quoi la vraie vie. Ça m'amène au deuxième point, non seulement la tromperie par rapport à Dieu, notre source de vie, mais dans les versets 39 à 40, sont tellement puissants ces versets-là, on voit les mauvais fruits de rejeter Dieu, notre source de vie. Regardez versets 39 et 40. Ici, Jésus parle aux leaders de son époque, les leaders religieux. Vous sondez les Écritures. Ceux qui leur prenaient, leur disaient, hey, ce que tu as fait là, c'est le jour du sabbat, tu n'es pas supposé. Puis avec cet homme qui avait guéri là, à la piscine, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi il ne voulait pas aller à Jésus pour avoir la vie? Il était là. Je veux dire, les Écritures qu'il lisait rendaient témoignage de Christ, puis Christ était là devant eux, puis eux autres voulaient la vie des Écritures, puis là, la vie elle-même, Jésus, la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il était là devant eux, puis il n'allait pas à lui pour avoir la vie. Pourquoi? Ben parce qu'il ne se posait pas les bonnes questions face aux Écritures, puis à la vie même en tant que telle. Eux autres, ils sondaient les Écritures, ils voulaient avoir en elles la vie. Parce qu'eux autres, ils se disaient, mais là, on va regarder les Écritures, puis là, ben ça c'est bien, ça c'est mal. Fait que là, si je fais le bien, puis si je m'éloigne du mal, là, je vais avoir la vie. C'est comme ça qu'ils traitaient les Écritures. Alors, quand je vois, finalement, ils traitaient les Écritures comme l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Pourtant, l'arbre de vie était là devant eux autres. Dieu avait réouvert l'accès à l'arbre de vie. Il était devant eux autres, puis il leur parlait. Puis il n'allait pas à lui. Parce qu'il avait pas la bonne perspective, parce qu'il ne parlait pas de la bonne question. Il essayait de trouver dans les Écritures la vie. Puis il disait, mais là, si je m'éloigne assez du mal, puis si je fais assez le bien, là, je vais l'avoir, la vie. C'était ça, la tromperie. Puis ça donnait du mauvais fruit. Ils ont rejeté le Fils de Dieu, la vie elle-même qui était devant eux autres. Et donc, c'est le mauvais arbre. Et la question, c'est pas, je vous l'ai dit, hein, est-ce que c'est bien ou c'est mal, c'est est-ce que c'est vivant ou c'est mort. Les questions, les religions du monde se demandent toutes c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Il y a une moralité dans les religions. Mais il y a une seule foi qui est authentique parce que c'est celle qui porte la vie. La question, puis je parlais de ça en témoignant à quelqu'un, tu cherches la bonne, le gars cherche la bonne religion. Sincèrement, là, il se demandait, ah là, ça, puis, il n'était pas besoin de savoir, ah, lui, dis-tu la bonne affaire, la mauvaise affaire, puis ça, il y en a juste une qui est vivante. Elle donne la vie. C'est le message de l'Évangile. C'est Christ qui est venu nous donner la vie. Et donc, pour nous, on doit se poser la question, est-ce que je demeure en Jésus-Christ en ce moment? Est-ce que je marche dans cette vie? Ou quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, est-ce que je possède la vie? C'est pas, j'ai-tu la bonne religion? J'étudie bien comme il faut la prière de repentance? J'étais-tu vraiment sincère? Non, c'est, est-ce que j'ai la vie? Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis passé de la mort à la vie? C'est ça la question. Là, je ne veux pas enlever l'importance de la vérité dans nos vies. Je veux dire, la doctrine est importante, mais la doctrine peut être morte si elle n'a pas la vie. C'est la parole vivante de Dieu. Elle doit donner la vie. C'est ça ici qu'on voit dans Jean. Comment ça que je suis rendu dans la voie, mon Dieu? Est-ce que c'est que j'ai fait là? J'ai perdu ma place. Ah ben oui, c'est ça. C'est très pertinent comme commentaire. Vous sondez les Écritures parce que vous pensiez avoir en elles la vie. Puis, savez-vous quoi? Il y a toute une tromperie, là. C'est vrai que les Écritures témoignent de Jésus qui est la vie. La tromperie, c'est qu'ils voyaient les Écritures comme une fin en tant que telle et non pas comme la révélation du Dieu vivant. Maintenant, pourquoi c'est si important cette question? La question de la vie, de la mort. Bien, parce que les humains, là, vous savez, on a une capacité assez exceptionnelle, extraordinaire, de relativiser les choses, de redéfinir les choses, de les reformuler en termes de bien puis de mal pour que ça soit acceptable. Puis là, ben, on vit selon ça. On se fait un beau petit bonsaï du bien puis du mal, puis on met ça dans notre jardin, puis on s'en va avec ça. Je vais vous donner un exemple. Des exemples. Quelqu'un qui a de la misère avec des dépendances. Il y en a toutes sortes de dépendances. Dépendance affective, dépendance à des substances, dépendance à l'approbation des autres. Mais mettons dépendance à une substance. Ah, juste un peu, juste une fois. Souvent, on relativise de même. Ou un autre problème, le commérage. Ben, je me soucie de cette personne-là. C'est pour ça que j'en parle à l'autre personne. Mais j'en parle pas à la personne directement pour y communiquer les paroles de vie, là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. OK, mais je veux juste vous donner des exemples. Ici, deux exemples de mauvais fruits de rejeter Dieu comme étant notre source de vie. C'est-à-dire que si l'origine de nos pensées, de nos paroles, de notre comportement n'est pas Dieu lui-même, ça va donner toutes sortes de pensées, toutes sortes de voix qui peuvent paraître bien, mais qui finalement, telle voix paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Et c'est ce qu'on voit ici avec ces gens-là, ils étaient très sincères, c'était les champions de la religion de l'époque. Ils étaient regardés hautement par la majorité des gens. Et beaucoup de chrétiens sont bien sincères, et la majorité des chrétiens sont bien intentionnés, mais ils sont trompés. Et ils vivent un mensonge, ils vivent le mensonge de la tromperie concernant Dieu. Ben regarde, si je fais ça pour Dieu, c'est mieux que rien. Non, si la source est corrompue, c'est pire que rien, parce que tu es dans une tromperie, puis tu t'enfonces là-dedans, puis tu es plus misérable que si au moins tu voyais que tu étais dans le trouble. Là, tu t'en rends même pas compte. Et à ce sujet, on a à apprendre non seulement de ces religieux-là ici, oui, ils étaient hypocrites, ils étaient trompés, mais aussi de nos premiers parents, Adam et Ève. Parce que c'est là que tout a commencé, la vie selon le bien, le mal. Vivre de façon indépendante de Dieu, tout a commencé dans le jardin. Et là-dessus, je vais vous dire juste quelques petites choses vers la conclusion du message. Vivre selon le bien puis le mal nous rend égocentriques et non pas christocentriques. Je répète, vivre selon le bien et le mal nous rend égocentriques, centrés sur nous-mêmes et non pas sur Christ. Savez-vous qu'avant la chute, le focus, l'attention d'Adam et Ève n'était pas sur leur comportement, mais sur leur relation avec Dieu? Avant la chute, le centre d'attention de nos premiers parents n'était pas leur comportement, mais leur relation avec Dieu. Ce n'est qu'après la chute que le centre d'attention, le focus est devenu leur comportement. Y es-tu bien? Y es-tu mal? Et ça, c'est égocentrique. Je vous explique pourquoi. La dépendance pour savoir si c'était bien ou mal, ça ne dépendait plus de leur relation avec Dieu, mais de ce qu'eux autres étaient capables de déterminer. La dépendance était maintenant brisée avec Dieu et elle était en elle-même. C'est ça la tragédie de la chute. Et si nous ne sommes pas christocentriques, on peut passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans l'autocritique, critique constructive. J'ai déjà des gens qui m'ont dit hey, dis-moi mes problèmes, puis je veux vraiment apprendre de ce qui ne marche pas. Puis on peut faire aussi pour nous-mêmes. Seigneur, montre-moi c'est quoi qui ne marche pas, puis OK, l'autocritique. Le problème avec ça, c'est pas de vouloir apprendre puis d'être enseignable. Le problème, c'est le focus. Est-ce qu'il est sur moi, mon comportement, ou sur Christ en moi? Parce que faites-vous en pas, si on focus sur Christ, là, il va nous révéler des affaires bien plus grandes que juste le comportement. Il va révéler les motifs même. Il va aller bien plus profond. Il ne va pas juste travailler sur l'extérieur puis ce qu'on voit à l'œil. Il va dans les tréfonds du cœur. Autrement dit, c'est pas un que, tu sais, ah ben là, je vois le bien puis le mal, puis là, avec Dieu, mais je suis comme dans une espèce de désert. Non, tu sais, comme Jésus a dit, la loi dit ça, mais moi, je vous dis encore plus, ben avec Dieu, ça va encore plus loin. Il va jusqu'au fond des motivations de notre cœur. C'est mieux que dépendre de nous-mêmes. C'est pas comme, ah, mais là, tu sais, tu dépends de Dieu, là, tu vas quand même faire dur, parce que là tu sais, tu peux plus dépendre de toi, puis on a une espèce de pensée corrompue par rapport à ça qui est dure à déloger. Mais j'aimerais juste vous dire, c'est quoi le ministère du Saint-Esprit? Le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous délivrer de l'égocentrisme. Il nous enlève le focus de sur nous-mêmes. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène sur Christ, preuve à l'appui. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça, c'est Jean 15, 26 et 16, 14, 13 et 14. Ça dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voyez-vous comment le ministère du Saint-Esprit dans nos vies, il est christocentrique. Il nous enlève les yeux sur nous-mêmes puis nous les ramène sur Christ, notre vie. Une autre chose qui est importante à comprendre par rapport à Dieu, notre source de vie, puis les mauvais fruits lorsqu'on rejette cette source de vie, c'est que vivre selon le bien puis le mal, selon l'arbre, la connaissance du bien puis du mal, ça valorise, on peut-tu dire ça, ça ressemble à un pléonasme, ça valorise les valeurs humaines et non pas les vertus divines. Ça valorise les valeurs humaines et non les vertus divines. Autrement dit, vivre selon un système de valeurs nous amène à vivre de façon indépendante de Dieu. Et même le parfait système de valeurs de la parole de Dieu. Ça peut paraître quasiment hérétique ce que je dis là. Le problème, ce n'est pas avec la parole de Dieu. Ce n'est pas avec le système de valeurs parfait de Dieu. C'est la dépendance, c'est la source. Dieu, donne-moi ta parole, ta sainte parole, pour que je puisse vivre par moi-même en disant que j'ai tout fait les bonnes affaires chrétiennes. Mais oui, c'est pas le problème avec la parole. C'est moi qui sers la parole comme une fin, puis je ne dépends pas de Dieu avec. On peut apprendre à vivre indépendamment dans une bonne église chrétienne. À vivre indépendamment. Ça sonne vraiment bizarre, mais c'est ce qui caractérise la majorité des églises. Merci, Eric. T'as un bon amen à la bonne place. Ça, c'est un bizarre d'amen. À une bizarre de place. Oh. Non, le problème, c'est que on peut être centré sur notre comportement puis passer à côté de la vie surnaturelle que Dieu a pour nous. La vie chrétienne, c'est pas la version 2.0 de notre chair, une moralité améliorée, la meilleure des religions. Non, la vie chrétienne, c'est une vie échangée, une vie transformée, une façon inouïe de manifester la vie de Dieu en nous. C'est pour ça, je le répète, on n'a pas été créé ni sauvé pour vivre selon le paradigme du bien et du mal, mais selon le paradigme de la vie et de la mort. Parce que ça peut paraître bien, mais l'issue, c'est la mort. Qu'est-ce qui va déterminer? C'est la source. Ou, pour le dire autrement, vivre selon le paradigme du bien et du mal, je demeure en moi, dans ma capacité. Vivre selon le paradigme de la vie et de la mort, c'est-tu vivant ça? C'est-tu la vie surnaturelle de Dieu? Ça m'amène à demeurer en Christ. Voyez-vous, ça force la dépendance. Vivre selon le paradigme du bien et du mal, ça pose la mauvaise question. Ah, c'est bien donc, forcément, c'est ce que je dois faire. Pas nécessairement, parce que tu dépends de toi, tu fais le bien, mais tu le fais par ta propre chair, puis ça peut te donner toutes sortes de mauvaises conséquences. Mais vivre selon la vie et la mort, ça pose la bonne question. Est-ce que l'origine, elle est divine? Est-ce que ça vient de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu et de ma relation avec Dieu? Trop de chrétiens vivent avec un fardeau ou cette fameuse épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Cette épée de savoir si Dieu est-tu content avec eux autres. Savez-vous que beaucoup de chrétiens sont tentés avec ça? Hantés. Pas tentés, là. Hantés. Ils sont pris par cette pensée. Dieu ne doit pas être content de moi. Ah, Dieu, aujourd'hui, il doit vraiment être déçu de moi. En passant, pour que Dieu soit déçu de nous, il faudrait qu'il soit surpris. Puis Dieu ne peut pas être surpris. Dieu, là, en nous sauvant, il savait tous les mauvais coups qu'on allait faire. Puis il nous a sauvés pareil. Ça, c'est une bonne pensée à vous ramener. Là. Il nous a sauvés. C'est la grâce de Dieu. Hey, on prêche qu'on est sauvés par la grâce au moyen de la foi, puis on vit comme si on dépendait de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est tout par grâce. Là. That's it. Je l'aime, celui-là, Bounicou, il dit ça. Là. That's it. En passant, quand on se pose la mauvaise question, Justement, Dieu, es-tu content de moi? J'ai-tu fait le bien que je suis supposé de faire? J'ai-tu pas fait le mal que je suis pas supposé de faire? Je passe à côté du but de la vie avec moi, c'est-à-dire venir à lui pour avoir la vie. C'est sorti ce matin en prière. C'est puissant, ça, on le sait quand ça marche pas. La question, c'est comment je peux régler ça? Non, c'est où je vais avec ça? Misérable que je suis, n'est-ce pas qu'on dit ça des fois? Mais la question, c'est pas comment je vais être délivré de ce corps de mort? Donne-moi la recette pour qu'enfin j'aille plus à... Non, qui me délivrera? Vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Puis pour les chrétiens, c'est encore la même chose. On sent notre misère, on voit des affaires qui ne marchent pas dans nos vies, puis tant mieux pour ça, Dieu est bon, puis il ne nous laisse pas aller à l'endurcissement, puis il nous montre notre péché, il nous montre les choses qui ne marchent pas. Mais pas pour qu'on on se lève les manches, puis qu'on essaie de s'en sortir, pour qu'on vienne à lui. Qu'on vienne à lui, la source d'eau vive, celui en qui nous avons tout pleinement. Donc, ma question pour terminer, où vas-tu pour avoir la vie? Ou je dirais, pour le dire autrement, comment est-ce que tu choisis la vie? On l'a vu, hein? C'est aussi une coupe de messages. Voici, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Est-ce que tu tombes dans le piège du verset 39? Tu sondes les Écritures parce que tu penses avoir en elle la vie, mais tu ne vas pas à celui qui est la vie. Mes amis, ce n'est pas plus compliqué que ça. La voie de la délivrance, ce n'est pas une solution, une gamique, une recette. C'est une personne et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Qui me délivrera? Gloire soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui délivre. Donc, mon appel, c'est simple ce matin. Viens à Jésus. Viens à Jésus pour avoir la vie. Vous savez, c'est la même affaire pour quelqu'un qui n'a pas encore la vie ou quelqu'un qui l'a, puis qui veut la vivre en abondance. Même personne, même place. Même grâce, même moyen de la foi. C'est comme ça qu'on est à la vie, c'est comme ça qu'on avance, qu'on marche dans cette vie. C'est merveilleux. Ça vient de Dieu. C'est simple, c'est beau. Puis je termine avec une prophétie là-dessus. De notre cher Ésaïe que j'aime tant. Ah, qui est précieux ce prophète. Parce qu'il y a plein de Jésus-Christ. Ça déborde de Jésus-Christ dans Ésaïe. Le prophète messianique. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Merci Seigneur, merci que tu l'as voulu ainsi. Tu as voulu que tout ce qui respire dépende de toi afin que tout ce qui respire donne gloire à ton grand nom, au grand Dieu merveilleux que tu es. Et Seigneur, tu nous invites simplement à venir à toi parce qu'en toi est la vie, en toi est tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, brise cette dépendance, cette indépendance que nous avons. Dépendance à nous-mêmes, indépendance de toi. Et s'il y en a ici qui n'ont pas encore la vie, c'est parce qu'ils vivent sans être connectés à Christ, l'unique source de vie. On te prie qu'ils viennent, qu'ils choisissent la vie, qu'ils viennent à Jésus pour avoir la vie. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, ah oui, nous aussi, on veut constamment choisir Christ, notre vie. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et si on vit, on vit dans la foi, dans la confiance en Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bonté. Transforme notre façon de voir notre vie, de penser, Seigneur, et qu'elle soit alignée avec ta sainte parole, la vérité. Merci, Seigneur, que tu es patient, tu es bon envers nous. On te loue, on te bénit, au nom de Jésus. Amen.